Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'Idul Fitr en Égypte. L'Indonésie participe à l'initiation de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. La Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises est célébrée pour la première fois en Argentine. L'Indonésie a demandé à l'Égypte de diminuer le tarif d'importation de marchandises indonésiennes qui entrent en Égypte. L'infrastructure de DNI a modifié pour l'accès aux investissements étrangers. Chérami nous présente maintenant le journal complet. Le peuple indonésien en Égypte célèbre la fête de l'Idul Fitr à l'ambassade de la République d'Indonésie au Caire. Des citoyens indonésiens de divers milieux se sont rassemblés à Wisma Duta de l'ambassade d'Indonésie à Garden City au Caire pour effectuer la prière de l'Idul Fitr. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Helmi Fauzi, a transmis les salutations des vacances de l'Idul Fitr à tous les Indonésiens en Égypte. À cette occasion, l'ambassadeur Helmi Fauzi a déclaré que la célébration de l'Idul Fitr pour la communauté d'outre-mer établit l'une des voies et les possibilités de renforcer les relations et d'accroître l'esprit d'unité nationale. Partout où il se trouve, les citoyens indonésiens doivent avoir une forte attitude nationale. La célébration de l'Idul Fitr récemment est une activité qui peut renforcer notre esprit national et notre unité. Même si nous vivons à l'étranger, nous devons avoir des façons de penser, de se comporter et de faire qui montrent la loyauté de s'occuper et de respecter la nation et la patrie. L'ambassadeur Helmi Fauzi a déclaré « En tant que nation pluraliste, la société indonésienne à l'étranger doit également pouvoir apprécier la diversité des tribus et des cultures. En outre, les citoyens indonésiens sont également tenus d'obéir aux lois disciplinaires et de mettre les intérêts de la nation et de l'État au-dessous de leurs propres intérêts et groupes. » L'Indonésie est devenue l'un des pays qui a initié la mise en place du 27 juin comme la Journée internationale de micro, petites et moyennes entreprises. Le ministre des coopératives et des PME, M. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mardi à Jakarta, a déclaré que le gouvernement indonésien est content de faire partie du mouvement international en ce qui concerne les MPME. L'idée de ce mouvement est suivie directement par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le mouvement pour MPME international a été initié par 11 pays initiateurs, y compris l'Indonésie. Et l'Indonésie a été représentée par le ministre des coopératives et des PME, Puspayoga, et le président du CP, ou Conseil international pour les petites entreprises Indonésie, Hermawan Kartajaya. Cette initiation a été lancée en 2016 au siège de l'ONU à New York, les États-Unis. Puspayoga a déclaré que la Journée internationale des MPME est à la forme de l'appréciation et le soutien du monde international à l'économie du peuple qui devient l'épine dorsale du bien-être de la nation. Il invite les gens en Indonésie à soutenir et acheter les produits de MPME. La célébration de la Journée internationale des MPME le 27 juin est organisée en Argentine en tant que l'hôte de la conférence de CIP. Le président du CIP au Conseil international pour les petites entreprises, Indonésie, M. Hermawan Kartajaya, a dit mercredi à Jakarta que l'Argentine a commencé à célébrer le 27 juin 2017 comme la journée de MPME internationale pour la première fois. La première célébration de la journée internationale de MPME est organisée à Buenos Aires, l'Argentine, et aussi au siège des Nations Unies à New York, Genève, Washington DC, Séoul, Manille et Pékin pour les différents partis. Hermawan, qui est aussi le haut fonctionnaire du ministre des coopératives et des PME, souhaite que la journée internationale de MPME puisse être célébrée en Indonésie tous les 27 juin. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie a commercialisé un certain nombre de produits de qualité supérieure à l'Égypte. Malheureusement, le tarif d'importation des produits d'Indonésie en Égypte est encore relativement élevé. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Helmi Fauzi, à RRI au Caire mardi soir. Selon l'ambassadeur, lors de la réunion avec le ministre égyptien du Commerce, il y a quelque temps, l'ambassade d'Indonésie a le projet d'explorer de la coopération de libre-échange avec l'Égypte. Selon l'ambassadeur Helmi, sa partie a demandé également l'existence de la réduction du tarif de l'importation de certains produits indonésiens qui entraient dans ce pays. Le gouvernement indonésien se prépare à déréguler la liste d'investissements négatifs ou DNI de la deuxième étape. La première phase de changement de DNI a été effectuée au premier trimestre de 2015. Cette amélioration devrait favoriser la croissance de l'investissement antérieur. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, a déclaré à Jakarta récemment que le gouvernement essaie de repousser la croissance des investissements comme un effort pour stimuler l'économie. Jusqu'à présent, avec la déréglementation de DNI publiée en 2015, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont couverts à 100%. Et maintenant, un certain nombre de secteurs ont pu être entrés dans la partie étrangère et privée qui atteint 50% jusqu'à 60%. Il a également expliqué, en plus du secteur de l'infrastructure, il y aura d'autres secteurs qui participent à la facilité d'investissement. On espère qu'avec cette déréglementation, les étrangers puissent entrer plus de 60%. Cependant, le ministre Darmin Nasution n'assure pas s'il existe une déréglementation dans chaque secteur, y compris les infrastructures, car il doit y avoir une discussion ministérielle liée à la réglementation du DNI et cette discussion n'a pas été finie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
« réaliser votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré. 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie. 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie. 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La succession en Arabie Saoudite ». Cette fois, l'Arabie Saoudite est l'un des pays qui a pris des mesures diplomatiques contre le Qatar, un pays considéré comme un commanditaire pour un mouvement extrême dans la région du Moyen-Orient. Mais qui a causé l'Arabie l'a fait? Apparemment, le prince Mohammed bin Salman, le fils du roi Salman ibn Abdul Aziz, qui est maintenant le ministre de la Défense, ce qui a incité l'action. Non seulement cela, la proposition formulée dans la vision 2030 dirige le plus grand pays de la péninsule arabique de libérer du pétrole et du gaz comme la principale source de revenus. Cette vision a fait le roi Salman de visiter l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est récemment. Le royaume d'Arabie Saoudite a versé l'investissement des milliards de dollars dans les deux régions, y compris l'Indonésie. Depuis que le roi Abdul Aziz Al Saud est mort en 1953, l'Arabie Saoudite fait la succession étant différente avec celle dans les pays monarchiques en général. Les descendants du roi Abdul Aziz Al Saud fait la succession entre les frères et les sœurs a été commencée du roi Saud, le roi Faisal, le roi Khalid, le roi Fahd, le roi Abdullah jusqu'à roi Salman. Mais la succession fraternelle n'est pas continuée à l'époque du roi Salman. Récemment, il a décidé l'un de ses filles, comme prince héritier, remplacer son oncle, le prince Mohammed bin Nayef. La succession de la deuxième génération, telle que les enfants de Abdul Aziz, dont l'âge moyen est assez vieux, à la troisième génération. Le roi Salman a pris le trône à l'âge de 79 ans. Mohammed devient la couronne du prince après avoir traversé plusieurs étapes. Une semaine après, le roi Salman bin Abdul Aziz a monté sur le trône en 2015. Mohammed a été nommé ministre de la Défense et chef de la maison royale. Mohammed dirige aussi le Conseil des affaires économiques et du développement, ou CEDA. Comme le leader de CEDA, Mohammed a lancé un programme visionnaire Vision de l'Arabie Saoudite 2030. Il sévise contre l'Iran, principal rival saoudien dans la région. Cela a été démontré lors que l'Arabie a mené une attaque ouverte contre les Houthis au Yémen qui est soutenu par l'Iran. La décision de l'exclusion du Qatar est aussi le rôle de Mohammed. Un observateur du Conseil de l'Atlantique à Washington, Mohammed Al-Yahya, a déclaré que la question de la nomination de la troisième génération est un avantage pour l'Arabie Saoudite parce que la planification est faite non seulement pour 10 ans, mais jusqu'à 40 ans dans l'avenir et devient la continuation de l'institution du royaume. L'étape de rajeunissement des leaders dans le royaume est la prérogative du roi d'Arabie Saoudite actuellement. Il espère cette nomination que l'Arabie Saoudite revient à une situation financière positive. Ces dernières années, les pays riches en pétrole ont un déficit budgétaire en raison de la baisse des prix du pétrole mondial. En effet, la stabilité de la région ne peut pas être séparée de l'état stable d'Arabie Saoudite. L'Indonésie espère ce pays peut être stable dans le domaine économique et aussi politique parce que des centaines de milliers de personnes indonésiennes travaillent dans ce pays. De plus, chaque année, des centaines de milliers de personnes de l'Indonésie ont effectué du Hajj et Umrah, visitent la mosquée Al-Haram à la Mecque et Al-Nabawi à Médine. Une mauvaise situation en Arabie Saoudite peut affecter les recettes en déficit des travailleurs d'Indonésie et le confort de culte des musulmans indonésiens. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et sa femme Sophie de Hunebrug en visite à Sarajevo sont assassinés par un nationaliste serbe de 10 novembre, Gavrilo Princip. Cet attentat met le feu à l'Europe alors divisée entre la triple alliance Autriche-Hongrie, Allemagne et Italie et la triple entente Russie, la France et la Grande-Bretagne. L'Autriche-Hongrie déclarait la guerre à la Serbie le 28 juillet et le conflit entraîne la Première Guerre mondiale. Elle dure 4 ans et fait 8 millions de morts. L'autre information est sur le traité de Versailles le 28 juin 1919. L'accord de Versailles est un document de la paix signé à la fin de la Première Guerre mondiale par les Alliés et l'Allemagne. La signature de ce document était faite dans la galerie des glaces du château de Versailles, la France, le 28 juin 1919, étant fait entrer en vigueur le 10 janvier 1920. Cet accord a été préparé au cours de la conférence de paix de Paris au printemps de 1919 qui était dominée par les dirigeants des quatre pays, le Big Four, à savoir David Lloyd George de Grande-Bretagne, George Clemenceau de France, Woodrow Wilson des États-Unis et Vittorio Orlando de l'Italie. Ils veulent s'assurer que l'Allemagne ne va plus lancer des attaques militaires. Cet accord contient un certain nombre de dispositions qui garantissent la réalisation de cet objectif. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le journal Compass, a été publié pour la première fois le 28 juin 1905. L'idée initiale de la publication du journal Compass vise à lutter contre la presse communiste. Compass a été publié initialement comme un journal hebdomadaire avec 8 pages, puis publié 4 fois par semaine. Et que dans les 2 ans, Compass est devenu un journal national avec un tirage de 30 650 exemplaires. Le nom de Compass étant donc du président Sukarno, ce qui signifie panneau indicateur. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous. Voici donc la mise au point sur l'environnement et pour le titre, les figures religieuses et autochtones dans le monde lancent le mouvement de protection des forêts. Pour la première fois, les figures interreligieuses et communautaires dans le monde se sont réunies pour lancer le mouvement de la protection des forêts dans le forum initiative de la forêt tropicale interconfessionnelle à Oslo en Norvège, qui a ouvert lundi le 19 juin. Les dirigeants du christianisme, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme et du taoïsme se sont réunis pendant 3 heures avec les dirigeants autochtones pour discuter des objectifs et des actions en matière de protection de la forêt. Les réunions interreligieuses et les peuples autochtones qui durent jusqu'au 21 juin, organisées par Norway's International Climate and Forest Initiative, Rainforest Foundation Norway, and the United Nations Development Programme. Les chefs religieux et les chefs des communautés autochtones qui ont participé venaient du Brésil, le Congo, la Colombie, le Pérou, l'Indonésie, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Israël, les Philippines, le Myanmar, le Vatican, la Norvège, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. L'Indonésie est représentée par le président du Centre pour le dialogue et la coopération entre les civilisations, Denis Syamsuddin, le directeur exécutif du Centre d'études religieuses et interculturelles de l'Université Gadjah Mada, Zainal Abidin Bagir, le vice-président du Conseil national de l'Alliance des peuples autochtones de l'archipel, Abdonna Baban, le directeur Nalad Wipa de l'Institut de recherche, Aziz Asman, et le directeur de la Foi verte, Nana Firman, qui réside actuellement aux États-Unis. Le président d'honneur des religions pour la paix, l'évêque émeritus Gunnar Stalseth, dans un communiqué écrit, a dit « Le but de la coopération avec les chefs spirituels et les chefs traditionnels est de devenir un plan d'action commun pour créer un mouvement pour protéger la forêt tropicale. » Stalseth a ajouté « La portée de cette initiative est mondiale. » Cependant, sa partie se concentre sur les chefs religieux traditionnels, les réseaux et les institutions de paix qui ont beaucoup de forêts tropicales. À travers de cette initiative, les chefs religieux se sont engagés à protéger, restaurer et gérer les forêts tropicales du monde d'une manière durable au profit spirituel, environnemental, social et économique. Denis Syamsuddin, qui représente l'islam, a transmis le point de vue de l'islam sur la solution à la crise environnementale. Il considère cette condition comme une crise morale. Il doit être traité avec l'approche des valeurs morales et de l'ethnique religieuse. Selon Denis Syamsuddin, l'islam est la religion de l'univers. Il y a 750 versets du Coran qui parlent de la nature, la préservation de l'environnement et le développement de la terre. À cette occasion, il apprécie aussi le gouvernement indonésien qui donne l'attention à la préservation de l'environnement et des forêts tropicales. Selon lui, on devrait accroître la collaboration entre les religions et entre les groupes religieux et le gouvernement dans la conservation de l'environnement. Les forêts tropicales en Indonésie sont actuellement l'un des poumons du monde qui sont importants. Denis Syamsuddin, qui est également président du Conseil consultatif du Mouvement national d'Indonésie déplacé pour sauver la terre, a promis d'encourager son institution à être plus active, à faire des efforts dans la préservation des forêts tropicales par des programmes de conservation et de restauration. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement.
Le peuple indonésien en Égypte célébrait la fête de l'Idul Fitr à l'ambassade de la République d'Indonésie au Caire. Des citoyens indonésiens de divers milieux se sont rassemblés à Wisma Duta de l'ambassade d'Indonésie à Garden City au Caire pour effectuer la prière de l'Idul Fitr. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Helmi Fauzi, a transmis les salutations des vacances de l'Idul Fitr à tous les Indonésiens en Égypte. À cette occasion, l'ambassadeur Helmi Fauzi a déclaré que la célébration de l'Idul Fitr pour la communauté d'outre-mer établit l'une des voies et les possibilités de renforcer les relations et d'accroître l'esprit d'unité nationale. Partout où ils se trouvent, les citoyens indonésiens doivent avoir une forte attitude nationale. La célébration de l'Eid al-Fitr récemment est une activité qui peut renforcer notre esprit national et notre unité. Même si nous vivons à l'étranger, nous devons avoir des façons de penser, de se comporter et de faire qui montrent la loyauté, de s'occuper et de respecter la nation et la patrie. L'ambassadeur Helmi Fauzi a déclaré, en tant que nation pluraliste, la société indonésienne à l'étranger doit également pouvoir apprécier la diversité des tribus et des cultures. En outre, les citoyens indonésiens sont également tenus d'obéir aux lois disciplinaires et de mettre les intérêts de la nation et de l'État au-dessous de leurs propres intérêts et groupes. L'Indonésie est devenue l'un des pays qui a initié la mise en place du 27 juin comme la Journée internationale de micro, petites et moyennes entreprises. Le ministre des coopératives et des PME, M. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mardi à Jakarta, a déclaré que le gouvernement indonésien est content de faire partie du mouvement international en ce qui concerne les MPME. L'idée de ce mouvement est suivie directement par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le mouvement pour MPME international a été initié par 11 pays initiateurs, y compris l'Indonésie. Et l'Indonésie a été représentée par le ministre des coopératives et des PME, Puspayoga, et le président du CP, ou Conseil international pour les petites entreprises Indonésie, Hermawan Kartajaya. Cette initiation a été lancée en 2016 au siège de l'ONU à New York, les États-Unis. Puspayoga a déclaré que la Journée internationale des MPME est à la forme de l'appréciation et le soutien du monde international à l'économie du peuple qui devient l'épine dorsale du bien-être de la nation. Il invite les gens en Indonésie à soutenir et acheter les produits de MPME. La célébration de la Journée internationale des MPME le 27 juin est organisée en Argentine en tant que l'hôte de la conférence de CP. Le président du CP au Conseil international pour les petites entreprises Indonésie, M. Hermawan Kartajaya, a dit mercredi à Jakarta que l'Argentine a commencé à célébrer le 27 juin 2017 comme la Journée des MPME internationale pour la première fois. La première célébration de la Journée internationale de MPME est organisée à Buenos Aires, l'Argentine, et aussi au siège des Nations Unies à New York, Genève, Washington DC, Séoul, Manille et Pékin pour les différents partis. Hermawan, qui est aussi le haut fonctionnaire du ministre des coopératives et des PME, souhaite que la Journée internationale de MPME puisse être célébrée en Indonésie tous les 27 juin. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie a commercialisé un certain nombre de produits de qualité supérieure à l'Égypte. Malheureusement, le tarif d'importation des produits d'Indonésie en Égypte est encore relativement élevé. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Helmi Fauzi, à RRI au Caire mardi soir. Selon l'ambassadeur, lors de la réunion avec le ministre égyptien du Commerce, il y a quelque temps, l'ambassade d'Indonésie a le projet d'explorer de la coopération de libre-échange avec l'Égypte. Selon l'ambassadeur Helmi, sa partie a demandé également l'existence de la réduction du tarif de l'importation de certains produits indonésiens qui entraient dans ce pays. Le gouvernement indonésien se prépare à déréguler la liste d'investissements négatifs ou DNI de la deuxième étape. La première phase de changement de DNI a été effectuée au premier trimestre de 2015. Cette amélioration devrait favoriser la croissance de l'investissement antérieur. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, a déclaré à Jakarta récemment que le gouvernement essaie de repousser la croissance des investissements comme un effort pour stimuler l'économie. Jusqu'à présent, avec la déréglementation de DNI publiée en 2015, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont couverts à 100% Et maintenant, un certain nombre de secteurs ont pour d'être entrés dans la partie étrangère et privée qui atteint 50 jusqu'à 60%. Il a également expliqué en plus du secteur de l'infrastructure, il y aura d'autres secteurs qui participent à la facilité d'investissement. On espère qu'avec cette déréglementation, les étrangers puissent entrer plus de 60%. Cependant, le ministre Darmin Nasution n'assure pas s'il existe une déréglementation dans chaque secteur, y compris les infrastructures, car il doit y avoir une discussion ministérielle liée à la réglementation du DNI et cette discussion n'a pas été finie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons Dawet Suronatan, une boisson typique de Madiun. Alors restez avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de Radio Republik Indonesia. Outre les zones courtes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. En Indonésie, il y a beaucoup d'aliments frais et de boissons qui peuvent provoquer l'appétit. L'une des régions à l'est de Java, à savoir Madiun, a également des boissons fraîches qui sont toujours saisies par les amateurs de culinaire. La boisson s'appelle Dawet Suronatan. Serviteurs, Dawet Suronatan est une légende culinaire de Madiun. Cette boisson était bien connue depuis longtemps car sa délicieuse saveur devient préférée pour toutes les communautés. Cette boisson qui est introduite par l'une des étals à Madiun Jusqu'à présent, cet étal a été hérité à la troisième génération. Elle est située sur Jalan Merbabu, Pangongangan, Manguharjo, Madiun, en province de Java Est. Dawet Surunatan est une boisson fraîche légende qui est un mélange de riz noir collant et de porridge sumsum. Le dawet est fabriqué à partir de farine de riz et de rouban ou riz fermenté, combiné à de l'eau de palme et du lait de coco. La caractéristique de cette boisson est que son dawet est fabriqué par le propriétaire avec des recettes d'héritage familial. Pour cette raison, ce dawet goûte plus savoureux et moelleux. Au jour ordinaire, l'étal de Dawet Surunatan était plein d'acheteurs depuis le matin jusqu'à l'heure de déjeuner. De plus, si le temps à Madun est chaud, certainement de plus en plus d'acheteurs apprécient d'acheter le dawet frais et délicieux. Sa saveur de lait de coco qui est combinée avec la douceur du sucre brun dans la glace peut restaurer votre appétit. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Dawet Surunatan, une boisson typique de Madiun ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonjour chers amis, nous revenons dans la rubrique « Apprendre l'indonésien » qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est « di pasar », je répète, « di pasar » ou en français, au marché. Donc restez avec nous sur www.voi.co.id. Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Que pasar. Que pasar. En français, au marché. Di mana. Di mana, en français, où? Beli apa, en français, acheter quoi? Bawang merah, en français, l'oignon, bawang putih, en français, l'aile, bawang bombay, en français, l'échalote, paprika, paprika, en français, le paprika, ayam, ayam, en français, le poulet, ketchup manis, en français, sauce de soja sucré, ketchup asin, en français, sauce de soja salé, minyak wijen, en français, l'huile de sésame, sawi putih, en français, le feuille de moutarde blanche, sawi hijau, brocoli, wortel, sawi hijau, brocoli, wortel, en français, le feuille de moutarde, le brocoli et les carottes. Ayam goreng mentega, en français, le poulet au beurre frit. Capcay, en français, le capcay. Enak, en français, bon ou bon. Makan, en français, manger. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, maintenant je vais mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation entre Nina A et Lucie B. A. Hey Lucie, di mana kamu? Hey Lucie, di mana kamu? En français, Lucie, où êtes-vous? B. Di pasar modern BSB. Di pasar modern BSD. En français, sur le marché moderne de BSD. A. Kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? En français, vous voulez acheter quelque chose? B. Membeli bawang merah, bawang putih, kecap asin, dan minyak wijen. Membeli bawang merah, bawang putih, kecap asin, dan minyak wijen. En français, je veux acheter l'oignon, l'huile, la sauce soja et l'huile de sésame. Bawang bombay, paprika, ayam, kecap manis. Bawang bombay, paprika, ayam, kecap manis. En français, l'échalote, le paprika, le poulet et la sauce de soja. A. Kamu tidak membeli sayuran? Kamu tidak membeli sayuran? En français, tu n'achètes pas de légumes? B. Saya juga membeli sawi putih, brokoli, wortel, dan bakso sapi. Saya juga membeli sawi putih, brokoli, wortel, dan bakso sapi. En français, j'ai aussi acheté les feuilles de moutarde, le brocoli, les carottes et les boulettes de viande de bœuf. A. Kamu mau masak menu baru? Kamu mau masak menu baru? En français, vous voulez faire cuire un nouveau menu? B. Ya, ayam goreng mentega dan capcay. Ayam goreng mentega dan capcay. En français, oui, le poulet au beurre frit et le capcay. Masakan kamu sangat enak. Masakanmu sangat enak. En français, votre cuisine est très savoureuse. Saya mengundang kamu makan di rumahku. Saya mengundang kamu makan di rumahku. Je vous invite à manger chez moi. Terima kasih. Merci. Sampai besok. À demain. Chers amis, c'était Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, voici des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous allons vous présenter des chansons pop religieuses. Ces chansons seront chantées par groupe de musique Noura. On va écouter la première chanson intitulée Ton Namang Alal, chantée par Noura.
Jangan coba-coba sentuh hatiku kalau kau tak niat serius. Bila ku benar-benar jatuh cinta, apa kau mau tanggung jawab? Bukan berarti ku tak suka kau dekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Setia. Bukan berarti kau tak boleh mendekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu.
C'était la première chanson pop religieuse chantée par groupe de musique Noura, intitulée Tonamang Alal. Noura est un groupe vocal qui a été formé le 2 février 2014. Le personnel de ce groupe sont aussi Sasa, Nina et Laili. Avant la formation de ce groupe, tous les personnels sont le modèle de vêtements musulmans. Alors ne soyez pas surpris si tous les personnels portent le hijab. Le premier single de Noura, Étonnamment Halal, qui a été publié quelques mois depuis le groupe a été formé. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Noura intitulées Seulement temporaire.
Kita mengingkarinya, hidup kita.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons indonésiennes chantées par groupe musique Noura. Le nom du groupe vocal Noura vient de l'arabe, se compose de deux mots, à savoir Nour, ce qui signifie la lumière, et Noura, qui signifie cassé. Conformément à la signification de son nom, Noura veut être la lumière qui a éclaté dans l'industrie de la musique indonésienne. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, nous allons présenter les deux dernières chansons de Noura, intitulées « Si je sais » et « Amour une fois », chantées par Noura. Merci à tous et à bientôt.
C'est notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésie. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.